Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je déclare l'audience ouverte.
Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Aujourd'hui, je reçois Pascal Garbarini. Bonjour Pascal Garbarini, avocat des nationalistes corses, des stars de cinéma, du grand banditisme. Au milieu des années 90, vous vous êtes retrouvé embringué dans l'affaire dite du golfe de Sperone. C'est un dossier de racket sur fond de règlement politique entre le gouvernement d'Alain Juppé et les indépendantistes corses. Alors, vous allez nous raconter tout ça, mais déjà, il faut peut-être commencer par le début et nous décrire ce qu'est le golfe de Sperone.
Le golfe de Sperone, bon, déjà, c'est un endroit magnifique, hein, parce que c'est Sperone, déjà. Sperone, c'est dans l'extrême sud de la Corse, c'est-à-dire que c'est plus bas que Bonifacio. Et donc, c'est un domaine qui a été acheté à l'époque par un ancien pilote de ligne qui était tombé amoureux de cet endroit, qui s'appelait Jacques Devez, et qui a acheté, alors pour une bouchée de pain, mais c'était normal parce que quelque part, personne n'en voulait. Il a acheté ce domaine magnifique qui donne sur la mer avec des plages privées et également des grandes étendues de maquis. Et il a décidé de monter un golf. Mais pour qu'un golf, d'une manière générale, soit rentable, il faut faire de l'immobilier. Il y a eu un hameau qu'on appelle le hameau de Piantarelle, qui est une sorte de petits immeubles. Attention, ce n'est pas un building comme on peut le voir dans le 9-3, que les choses soient claires. Hein. Il est quand même plutôt lovely, si je puis dire, avec la particularité quand même que c'est quand même une barre d'immeubles. C'est-à-dire qu'une barre d'immeubles sur le golfe de Sperone, ça peut quand même, j'allais dire, provoquer quelques crises d'énervement, surtout à l'époque où c'est le FLNC, donc le Front de Libération Nationale de la Corse, qui est une organisation clandestine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le FLNC à l'époque avait de multiples revendications, sachant que celle qui était phare et celle qui emportait, j'allais dire, l'adhésion des plus nombreux était la défense du littoral, puisqu'il y avait un refus de ce que l'on appelait, mais vous voyez qu'on est encore dans le tempo, la bétonisation de l'île. En 1994, il y a un commando armé qui va se faire arrêter pratiquement en flagrant délit lorsqu'il va plastiquer le fameux hameau de Piantarella. Ce commando sera arrêté et sera libéré puisqu'on est en pleine négociation entre le pouvoir politique et les mouvements nationalistes. On pense que l'histoire de Sperone est terminée, mais il y a la saison 1 et puis en fait, on s'y attendait pas, il y a une saison 2. En fait, le 9 décembre 1996, un personnage connu, qui est Noël Philippe Edu, qui est un bonifacien d'une famille renommée, réputée, des commerçants, encore une fois, notablement établis et qui ont pignon sur rue, va être mêlé à cette affaire. Jacques Devez va prétendre que cet homme est venu lui réclamer, au nom et pour le compte du FLNC Canal Historique, la modique somme de 4 millions de francs.
En clair, il dénonce une extorsion de fonds, quoi.
On est dans ce que vous appelez ça une extorsion de fonds. À l'époque, je vous rappelle que nous avions des propos beaucoup plus nobles, ça s'appelait l'impôt révolutionnaire.
Très bien. Toujours est-il que Jacques Devez dénonce des pressions pour qu'il remette de l'argent, soit sous la forme d'une extorsion, soit en payant un impôt révolutionnaire au mouvement nationaliste. Et alors, il va y avoir des conséquences à ça.
Les conséquences, elles sont déjà immédiates, parce que ce qui va se produire, c'est que dès lors que M. Devez ne souhaite pas payer cet impôt révolutionnaire, je ne dirais pas que c'est un mauvais contribuable, mais ce qui se passe, c'est que la maison du gardien qui garde le domaine de Sperone est plastiquée dans la nuit. Et quand je vous dis qu'elle est plastiquée, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a même plus un gravier debout, si je puis dire. Donc là, monsieur Devez, il fera la première page de Libé, puisque le titre sera, je m'en souviens, c'est « Il brise la loi du silence ». Parce qu'en fait, l'impôt révolutionnaire était dénoncé d'ores et déjà par déjà les autorités judiciaires, les autorités antiterroristes. Et bien évidemment, il était très compliqué, très difficile pour que des personnes qui étaient soumises à cette extorsion de fonds parlent. Et là, on va dire, c'est le premier qui parle sur un domaine mythique qui est le golfe de Spérone, dans une affaire qui va prendre des conséquences dramatiques, puisqu'elle va conduire donc à l'interpellation de plusieurs membres supposés, présumés du FLNC Canal Historique, et notamment Marilène Mattei, qui était à l'époque l'égérie, on va dire, du mouvement nationaliste et l'avocate la plus célèbre de Corse. Et là, Marilène Mattei, dont je suis le collaborateur parisien, je suis son représentant à Paris, se fait arrêter un 16 décembre au matin, au petit matin, et elle est transférée immédiatement, transférée à la DNAT. À l'époque, la DNAT, maintenant on appelle ça l'antiterrorisme, à l'époque ça s'appelait la DNAT, qui est rue des Saussets, c'est-à-dire à côté de la place Beauvau, tout près de l'Élysée. Elle est transférée et elle va faire 4 jours de garde à vue. Et c'est Patrick Maisonneuve qui va prendre sa défense. Et moi, j'ai en mémoire, et je vous le dis avec vraiment émotion, parce que quand nous étions là dans la Galerie Saint-Éloi, alors la Galerie Saint-Éloi, c'est la galerie antiterroriste dans l'ancien palais, ça s'appelait comme ça, qui était au dernier étage, où il y avait des mesures de sécurité, mais qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. On a attendu, il était 1h du matin, et même les juges, et c'est le juge Bruguière qui avait pris le dossier, mais... En fait, ça faisait mal au cœur à tout le monde de retrouver la personne avec laquelle on travaillait comme un auxiliaire de justice qui était l'avocat dans des dossiers qui étaient toujours compliqués puisque le politique était mêlé au judiciaire et on le voit, ça rend toujours les choses complexes. De voir monter cette femme, égérie du mouvement, avocate reconnue, menottée, entourée par des policiers cagoulés. Elle se retrouvait dans la même situation que les personnes qu'elle défendait. Ça m'a marqué à vie. À vie, je serais marqué par cette image. À vie.
Et alors, il y a son compagnon de l'époque qui, lui, va réagir et qui va aller se rendre, parce que son compagnon de l'époque, c'est pas n'importe qui non plus.
Et là, il y a un côté chevaleresque. En fait, François Santoni est son compagnon de l'époque. Alors, François Santoni, qui est-ce? Bon, il a été assassiné depuis, hein, le 17 août 2001, à la sortie d'un mariage, à Monachi à Dolène, c'est-à-dire un petit village, pas très loin de Bonifacio. François Santoni, c'est le chef du FLNC, Canal Historique. Donc, c'est quelqu'un qui a mené les négociations pour le mouvement clandestin avec l'État et qui a une prestance et une personnalité assez forte, on va dire un caractère bien trempé, mais toujours avec une voix très douce. Une douceur, mais qui ne empiétait pas sur la fermeté des propos qu'il pouvait tenir. Des yeux bleus incroyables. D'ailleurs, ça me fait penser au film Le Cercle Rouge, quand Bourville, qui joue le rôle d'un commissaire qui est corse et qui a les yeux bleus, et le directeur de la police nationale dit « C'est étrange, un corse aux yeux bleus. Tiens, apportez-moi son dossier. » Bon, bref. Mais tout ça pour vous dire que c'est un personnage, et à cette époque-là, il est en cavale. C'est-à-dire que on lui reprochait une détention d'armes où il aurait été vu par un gendarme en train de tirer dans la forêt avec un 357 Magnum. Donc, comme il n'avait pas du tout l'idée de se faire arrêter, il avait pris, on va dire, quelques distances avec la vie publique. Pour lui, c'est sa compagne, déjà. C'est l'égérie du mouvement. Et là, François Santoni décide, un matin, de se présenter spontanément au commissariat de Bastia, en disant « Maître Mattei n'a rien à voir en prison, n'a rien à voir avec cette affaire et doit immédiatement sortir de prison. Donc je me présente et j'assume mes responsabilités. » Il se fait accompagner par Charles Pierry, qui est un autre chef présumé du FLNC Canal Historique, très importante, qui a été victime le 1er juillet 1996, on l'a oublié, mais d'un attentat en plein jour sur le port de Bastia où un militant, Pierre Lorenz, a perdu la vie. Un autre, Dominique Renucci, a été blessé et Charles Pierry a été très grièvement blessé puisque Il a perdu un œil et une grande partie de ses intestins. Bref, il se présente et François Santoni, comme s'il lui passait le relais ou un passage de pouvoir, mais au vu et au su de tout le monde, et il lui donne la collade et il rentre dans le commissariat.
Donc on va avancer un petit peu dans l'histoire. Quelques mois plus tard, Marie-Hélène Mattei est remise en liberté. C'est un contrôle judiciaire en fait. Et là, vous allez aussi intervenir.
Oui, parce que la situation en Corse, elle est à l'époque très compliquée. Les relations sont tendues, bien évidemment, avec le gouvernement de l'époque. Et pourquoi elles sont tendues? Parce que, si vous voulez, l'affaire de Speronne est le début d'une nouvelle ère où les négociations et les discussions qui étaient au vu et au su de tout le monde, elles vont progressivement cesser. Et donc on va avoir un changement d'appui, si vous me permettez l'expression, du gouvernement qui va dire, bon, il y a eu deux amnesties, il y a toujours autant d'attentats, il y a des assassinats, on le rappelle, les années 94, 95, 96, c'est des luttes intestines entre mouvements nationalistes, clandestins, rivaux, il y a eu une quarantaine de morts hein, quand même, donc ce n'est pas rien, des morts violentes. Et donc, si vous voulez, il est hors de question que Marie-Hélène Mattei rentre en Corse. Donc, il faut en urgence trouver un domicile pour Marie-Hélène Mattei. Là, à ce moment-là, en urgence, donc, j'offre mon domicile comme garantie de représentation sur Paris de Marie-Hélène Mattei. Mais j'oublie, si je puis dire, non pas naïvement, mais comme tout se fait dans l'urgence, c'est que je la mets à mon domicile, mais comme je suis interdit de communiquer avec elle dans l'affaire, eh bien, je ne peux plus rentrer chez moi. C'est elle ou moi. Donc, en fait, Marie-Hélène Mattei va se retrouver à mon domicile avec mon fils aîné et ma compagne de l'époque.
Sauf que, si je puis me permettre, malgré l'interdiction qui vous est faite de la rencontrer, vous vous êtes quand même débrouillé pour garder le contact.
C'est-à-dire que j'ai considéré, mais je l'assume, c'est que je trouvais que, bien évidemment, c'était un contrôle judiciaire qui n'était pas étanche. Moi, j'étais un proche de Marie-Hélène Mattei depuis le début, un proche de François Santoni. Les avocats, on était tous ensemble, que ce soit Maisonneuve, qui est un ami. Et le dossier avait été éventé. Vous vous doutez bien qu'un dossier comme celui-ci, tout le monde avait parlé, que ce soit les parties civiles, le parquet, qui avait réussi à mettre la main sur François Santoni dans une affaire de racket. Donc, je ne vais pas vous dire que le secret de l'instruction n'existe plus, mais on était quand même à livre ouvert. Bon, moi, me retrouver à la porte, obligé de vivre à l'hôtel, alors que j'avais mon jeune fils qui avait 3 ans, ma femme, et ne pas pouvoir rentrer chez moi, je trouvais ça un peu fort de café. Alors, j'ai voulu, si je reprends le cinéma, non pas faire comme Dustin Hoffman dans Tutsi, mais presque. Donc, je me suis mis une perruque, je me suis calfeutré avec un grand manteau, avec des chaussures qui étaient plus féminines que masculines, et je suis rentré chez moi la nuit.
Alors là, ceux qui nous écoutent ne vous voient pas, il faut savoir que vous continuez peut-être, d'ailleurs vous avez quand même pratiqué la boxe un bon bout de temps, donc vous êtes, on peut dire, un costaud quoi.
Voilà, on peut dire que j'ai des épaules. Quand on me voit de loin, on ne pressent pas une présence féminine.
Pas vraiment, si je puis me permettre. Donc là, vous avez dû quand même bien vous déguiser, quoi.
Oui, parce que je voulais pas non plus, parce que je prenais également un risque, parce que je voulais pas que le contrôle judiciaire étant violé, la première qui allait en faire les frais, c'était pas moi, c'était Marie-Hélène Mattei. Donc le but, c'était quand même pas qu'elle retourne en prison, c'était l'inverse. Voilà.
Cette affaire, elle va aboutir à eh bien, une audience de jugement devant un tribunal. En deux mots, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une des plus belles audiences correctionnelles à laquelle j'ai assisté. Donc moi, je défendais François Santoni et 4 autres militants nationalistes qui avaient été interpellés. Et un moment d'audience magnifique. Les personnages qui composaient ce dossier, c'est-à-dire les prévenus, parce que chacun y avait sa touche. Une des personnes qui était présentée, elle, comme étant un membre du commando qui avait vraisemblablement plastiqué la maison du gardien. Donc, comme on dit, un beau mec qui arrive, alors, emmitouflé dans un manteau noir, mais qui lui descendait presque en dessous le genou. Vous voyez, les épaules carrées et bronzées, vous voyez, bronzées et des yeux très bleus. Et il arrive à l'audience. Il s'installe et il va faire comme tout le monde, il va attendre son tour. Et à un moment donné, le président le convoque à la barre. « Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos journées ?»« Très bien monsieur le président, alors le matin, je me lève, il doit être 8h, ma femme a fait mon petit déjeuner, je le prends. Ensuite je vais me doucher, je m'habille, je prends mon fusil et mon chien et je vais à la chasse. Je rentre vers midi, ma femme a préparé à déjeuner, je mange. » Je vais me faire une petite sieste jusqu'à 16 heures. À 16 heures, je prends mon fusil de chasse et mon chien et je vais à la chasse. Je rentre vers 19 heures. Ma femme m'a préparé à dîner. Je mange et je me couche. Le président le regarde. Il dit, voyez, monsieur, je ne savais pas que c'était vous quand je vous ai vu rentrer dans la salle d'audience. Mais en même temps, je le savais parce que, en effet, lorsque j'ai lu votre procès-verbal qui reprend cette déclaration en garde à vue, j'avais mis au crayon à papier « Cet homme doit avoir bonne mine ». Je crois que l'affaire a duré sur 15 jours. Et donc, le mercredi soir, il doit être 16 heures, la salle est comble. Pas un mot, pas un bruit. Et le président dit « Monsieur François Santoni, c'est à vous ». François Santoni se déplace et il dit « Voyez, monsieur François Santoni, le tribunal n'a pas du tout l'habitude de procéder de la sorte. Mais tout de go, le tribunal a envie de vous dire « Monsieur Santoni, on parle de vous depuis le début. Chaque journée, votre nom est prononcé. Alors vraiment, tout de go, le tribunal vous dit « Comment sentez-vous cette audience, monsieur François Santoni ?» Monsieur le président, je ne suis pas dupe. Je sais que lorsque vous me demandez cela, c'est peut-être pour me flatter, mais je sais que c'est pour mieux me condamner. Et vous voyez, monsieur, avec moi, vous prenez beaucoup d'égards, mais vous en avez pris beaucoup moins avec celui que vous avez appelé Simplet et Gulliver, et avec mes autres amis qui vous ont fait beaucoup rire. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ces gens-là, qui n'ont pas les codes parisiens, eh bien, ça reste mes amis et je préfère cela, et là il désigne Devèze, que celui-ci accompagné de ses deux gardes champêtres qui étaient les deux gardes du corps. Et je vous le dis, je n'ai aucune confiance dans ce tribunal. Et là, le président un peu piqué au vif quand même, mais qui se départit pas de un peu ce côté un peu vieille France, j'allais dire un peu british, vous voyez. Il lui dit, mais pardon monsieur Santoni, vous n'avez pas confiance dans la justice de votre pays ? Blanc encore. Il dit, mais ce n'est pas mon pays, monsieur le président, et vous le savez, donc je n'ai pas confiance en cette justice. Et ça a été une partie de ping-pong pendant 4 heures. 4 heures avec des ripostes et des répliques ciselées, parce qu'en plus, vous vous doutez bien que chaque mot a été pesé pour que personne ne soit égratigné, sauf ceux que Santoni voulait égratigner. Mais sinon, bien évidemment, il fallait qu'il se défende, il fallait mettre hors de cause complètement Marie-Hélène Mattei, mais également les autres qui étaient intervenus.
Alors, in fine, il va y avoir un jugement. Marie-Hélène Mattei sera mise en partie, d'ailleurs, hors de cause. François Santoni condamné. Vous avez évolué après. Vous avez évolué à partir de 2000-2001, d'ailleurs. Vous dites, bah voilà, je vais passer à autre chose, je ne serai plus l'avocat des militants, je vais être avocat tout court, on va dire. Hein. Comment vous caractérisez cette période par rapport à celle d'aujourd'hui ?
Moi, à la fin des années 2000, je me suis rendu compte que les revendications les plus importantes, ou en tous les cas les miennes les plus importantes, avaient été acceptées, exaucées, j'allais dire, comme si c'était des vœux. Et donc, dans ces conditions, je pense que le seul combat aujourd'hui à mener, et c'est un combat avec un mot doux, en fait, que je vais employer, il est démocratique, et c'est tout, et ça s'arrête là. Et ce sont la population qui doit maintenant porter la voix, et uniquement la voix, et les cagoules sont complètement devenues obsolètes, me semble-t-il. Donc, à ce moment-là, j'ai considéré que ma robe n'avait plus à être au service de cette cause-là, et que voilà, que ce n'était plus nécessaire. Après, j'ajoute, parce que je veux être totalement franc et loyal vis-à-vis de vous, il y a aussi la perte des hommes. Voilà, moi, François Santoni, c'était mon ami. Jean-Michel Rossi, c'était mon ami. Ils se sont fait assassiner. Après, c'est compliqué d'avoir la même force et de faire comme si ça rien ne s'était passé pour continuer à avoir une parole.
Ils se sont fait assassiner. Vous aussi, vous auriez pu périr. Vous aussi, vous auriez pu faire l'objet de règlements de compte. Vous aussi, vous avez été menacé d'ailleurs.
Oui, j'ai été menacé de mort à l'époque, juste après l'assassinat de Jean-Michel Rossi d'ailleurs. Où manifestement, des gens armés m'attendaient en bas de chez moi. Mais après, moi, personne ne m'a obligé, on ne m'a pas mis l'épée dans le creux des reins pour dire « tu deviens avocat militant de la cause nationaliste ». Ce n'est pas vrai, c'est mon choix. Et en plus, j'ai choisi le pénal, notamment, je ne fais pas que du pénal aujourd'hui, mais à l'époque, je faisais du pénal et je choisis un pénal politique dans le cadre de l'antiterrorisme. Donc je plaide pas des baux d'habitation. Si on me menaçait parce que j'avais fait sauter une clause résolutoire d'un bail d'habitation, bon, ça, ben, ok. Mais là, je sais aussi en quoi je m'engage. Après, c'est ce que je dis, vous savez également que vous prenez des risques et que cet engagement, il y a des inconvénients. Moi, à l'époque, il y a beaucoup de dossiers auxquels je n'ai pas eu accès, où on voulait me désigner, mais comme j'étais avocat militant, on disait non, on peut pas prendre Garbarini parce qu'il est trop marqué. Donc ça fait partie, c'est un choix. Et quand on fait des choix, bien évidemment, et qu'on les arrête, vous devez forcément, j'aime pas trop ce mot, mais vous êtes clivant. Donc il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous détestent. Et puis ça entraîne, vous vous doutez bien qu'à l'époque, je pense que je devais avoir un dossier assez important ce qu'on appelait les RG. Entre guillemets, ça ne devrait pas être normal, mais au fond, nous savons que c'est normal. Voilà. Mais tout ça est aujourd'hui du passé, mais je l'assume.
Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs. Pascal Garbarini répondait à Mathieu Aron. Un montage signé Cyril Bonnet, une musique de Michaël Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.